Le journal, Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le droit à une scolarité sans harcèlement consacré cette nuit à l'Assemblée. Stage de sensibilisation systématique pour les bourreaux en culottes courtes et formation pour les profs. Voilà qui a fait consensus dans l'hémicycle. Le harcèlement un peu plus tard dans la vie, après la Ligue du LOL, les témoignages d'étudiantes en journalisme brimés par leurs anciens camarades. 13 samedis de manifestations dans les centres-villes, les commerçants au bout de leurs réserves, les plus en difficulté réclament des exonérations de charges. Et puis les élections européennes dans 3 mois maintenant et toujours pas d'union à gauche. Question posée à 8h20.
À Fabien Roussel, pourquoi effectivement la désunion? Il est secrétaire national du Parti communiste français dans le grand entretien donc. 01 45 24 7000, réseaux sociaux, application France Inter pour dialoguer avec lui.
À la une également, une grève générale en Belgique aujourd'hui pour de meilleurs salaires. La réforme de la santé en France et la naissance des hôpitaux de proximité. Le Venezuela et la bataille de l'aide humanitaire à la frontière. Le PSG magique hier soir à Manchester. Et la véritable histoire de Tromelin, l'île aux esclaves oubliés, exposition terrifiante et passionnante au Musée de l'Homme à Paris. France Inter. Il est des mots qui laissent des traces jusqu'à l'âge adulte, des brimades qui mènent parfois au suicide et qui dans tous les cas gâchent la vie de centaines de milliers d'enfants et d'adolescents. 1 élève sur 10, ce harcèlement qu'on dirait inhérent aux cours de récré et aux réseaux sociaux, l'Assemblée a souhaité y mettre un terme hier soir en inscrivant le droit à une scolarité sans harcèlement, Sonia Princey, comme un principe du droit à l'éducation.
C'est une victoire pour les 700 000 élèves bouc émissaire dans les cours d'école. Le droit à une scolarité sans harcèlement, c'était un amendement d'Erwan Balanant, député Modem, complété par un autre député, Les Républicains. Bernard Perrut a ajouté des sanctions disciplinaires, notamment des stages de sensibilisation.
Une forme de sanction souple, ce que je propose n'est pas quelque chose qui ne puisse pas être écouté, qui ne puisse pas être admis, puisque finalement, il s'agit d'un accompagnement, en quelque sorte un stage qui permet que le jeune soit pris en charge, que ses parents l'accompagnent dans cette démarche.
Ces stages existent déjà, mais seront systématiques. On fait prendre conscience au harceleur de ce qu'il fait subir à son camarade et on lui rappelle les droits de chacun. Sur tous les bancs de l'Assemblée, l'amendement a été soutenu. Un rare consensus qu'Erwan Balanant a salué comme un progrès pour toute la société.
Il y a une sorte de continuum des histoires de harcèlement dans la vie des hommes et des femmes. Aujourd'hui, le limiter à l'école, qui est justement le lieu de la confiance et le lieu de l'exemplarité et le lieu des apprentissages, j'ose espérer qu'avec cet amendement, nous allons réduire le harcèlement dans sa globalité dans notre pays. Je vous remercie vraiment tous pour ce vote et pour ce travail parlementaire.
Le ministre de l'Éducation a promis aussi des formations à la lutte contre le harcèlement pour les personnels et pour les élèves.
Et quand le harcèlement dépasse le stade de l'adolescence et des cours de récré, cela donne la ligue du LOL qu'on a découverte il y a quelques jours, des raids insultants et concertés sur les réseaux sociaux et parfois plus directement. Voilà ce qu'ont aussi subi d'anciennes étudiantes de l'école de journalisme de Grenoble il y a quelques années de la part de leurs camarades de l'époque, Sébastien Sabiron.
En découvrant l'affaire de la ligue du LOL, cette jeune journaliste se remémore douloureusement sa première année de formation et ses attaques récurrentes dont elle faisait l'objet sur un groupe Facebook commun à toute l'école.
C'était des remarques permanentes sur les réseaux sociaux, mais aussi en réel, dans la vraie vie. T'es grosse, t'es moche, machin. Des remarques sur nos qualités même en tant que journaliste en devenir.
À l'époque, la jeune femme ignore encore l'existence d'un autre groupe plus confidentiel, Ultime 8, sur lequel sévissent 17 étudiants, garçons et filles. Mathilde a pu y avoir accès, elle travaille aujourd'hui dans une rédaction nationale.
Moi j'ai eu le droit des commentaires du style « elle a toujours la dalle, faut que ce mec revienne lui mettre un coup ». Dans la mesure où c'est pas sorti du groupe, on peut pas dire que j'ai été victime de harcèlement. Après c'est des gens qui sont journalistes, c'est des gens dont le métier c'est d'écouter d'autres gens. Et pour certains et certaines, c'est des gens avec qui je dois encore travailler aujourd'hui, dans mon service.
L'école de journalisme de Grenoble condamne des propos haineux tenus sur ce groupe, sa co-directrice Roselyne Ringot.
Je suis sous le choc, c'est la consternation, la stupéfaction. Et là, c'est plutôt sur de la prévention maintenant qu'il faut agir. Il faut en parler, il faut le dénoncer. Il ne faut pas qu'on reste seul avec ces problèmes-là locaux, parce qu'on voit que c'est généralisé.
De leur côté, les membres d'Ultime 8 disent tomber des nues. Ils évoquent un groupe strictement privé destiné à s'échanger des blagues entre amis.
Et cette histoire grenobloise, vous pourrez la découvrir découvrir dans le détail sur franceinter.fr. Elle aussi est harcelée et même menacée de mort. La députée de la majorité Alice Toureau, rapporteuse de la loi anti-casseurs, dit faire face à un torrent de haine dans sa permanence sur Internet et par courrier. Une lettre lui promet par exemple la mort par fusil d'assaut.
Il est 8h05, Florence. Les gilets jaunes et la justice, actualité chargée.
Avec un procès qui sera très suivi aujourd'hui, celui du boxeur de la passerelle Sangor à Paris qui avait frappé des gendarmes début janvier. 6 condamnations hier à Nîmes, jusqu'à 4 mois de prison ferme pour 4 femmes et 2 hommes, jugés pour l'incendie volontaire d'un centre des impôts. À Paris, l'homme soupçonné d'avoir cassé toute la journée de samedi et incendié un véhicule de la mission Sentinelle a été mis en examen et placé en détention provisoire. Et puis, l'employé d'une boulangerie parisienne qui avait refusé de laisser entrer un policier en marge de la manifestation parisienne il y a 10 jours a été placé en garde à vue. Ce commerçant qui a les policiers dans le nez fait figure d'exception par les temps qui courent, alors que tous rêvent d'un retour à l'ordre dans les grandes villes après 13 samedis de manifestations. Une délégation sera d'ailleurs reçue à Bercy par les secrétaires d'État à l'économie et à l'intérieur. Les commerçants attendent un coup de pouce de l'État pour surmonter cette période difficile, soutenue par leur maire comme Jean-Luc Moudinc à Toulouse.
Les dégâts des villes, hein, sur la chaussée, le mobilier urbain, toutes les dégradations que nous subissons, on en est à quelques 30 millions d'euros pour les grandes villes françaises, à l'heure où je vous parle. Et puis ensuite, les dégâts économiques, c'est-à-dire le fait que nos commerces coulent. Un cafetier me disait l'autre jour, place du Capitole, que, alors que d'habitude, il a une affaire qui marche plutôt pas mal, bah, qu'il avait déjà licencié 3 personnes. Vous savez, un maire, face à cette situation, n'a pas beaucoup de leviers. On a fait des efforts financiers sur nos propres budgets. On a exonéré les droits de place, les droits de terrasse, le reste... ça ne peut que venir de l'État. Et c'est la raison pour laquelle on demandera au gouvernement de passer maintenant à une logique plutôt d'exonération de charges sociales et d'impôts, les impôts économiques, CFE, CVAE, TVA, parce que sinon, si on reste dans une logique d'étalement de paiement, on n'y arrivera pas, étant donné que les trésoreries se sont effondrées.
Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse, avec Hélène Philly. Pas de hausse du prix de l'électricité jusqu'à la fin de l'hiver, mais que se passera-t-il ensuite, après le gel décidé par le gouvernement en pleine crise des gilets jaunes? Les tarifs réglementés d'EDF devront augmenter de 5,9% aussitôt que possible, dit la Commission de régulation de l'énergie. 26 millions de foyers sont concernés, potentiellement à partir du 1er mars. Et puis la taxe carbone fait son retour, au moins politiquement. 86 députés de la majorité, du centre et de gauche réclament une fiscalité carbone plus juste socialement, ce qui veut dire redistribuer intégralement aux citoyens et aux entreprises. L'augmentation de cette taxe sur les carburants avait été annulée à la rentrée de janvier. Peu de gilets jaunes chez nos voisins belges, mais une grève générale aujourd'hui pour de meilleurs salaires. Bonjour Pierre Benazet.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Bruxelles. Pierre, elle s'annonce suivie cette grève ?
Très suivi, oui, parce que les 3 syndicats principaux ont appelé à cette grève nationale. Et il faut savoir que les salariés belges sont très fortement syndiqués par rapport à tous les pays voisins, l'Allemagne, les Pays-Bas et surtout la France. Il y aura donc beaucoup de salariés en grève aujourd'hui, essentiellement dans le secteur privé, mais dans le public aussi, parce que les salariés du public ont estimé qu'ils devaient suivre cette grève par solidarité. Une grève qui va toucher évidemment d'abord les transports, même surtout les transports en commun, en côté francophone, en Wallonie. Le ciel aussi va être touché. Au-dessous de 8000 mètres, il n'y aura aucun avion en Belgique parce que les contrôleurs aériens sont en grève. Pas de ramassage des poubelles, pas de bus. Donc, beaucoup d'écoles seront fermées. Des commerces aussi, puisque c'est essentiellement un problème de négociation salariale. Il y a une négociation entre les employeurs et les salariés depuis la mi-janvier environ. Ils se disputent, ils sont en conflit sur l'augmentation à venir pour les 2 ans... l'augmentation pour les 2 ans à venir des salaires. Il y a une partie automatique, assez limitée, et une partie supplémentaire qu'un organisme décide de maintenir à moins de 0,9% alors que les syndicats réclament 1,4%.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles.
Il est 8h10, Florence. La France a beau avoir l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, la machine se grippe d'année en année.
Et c'est pour remettre du sirop dans ce grand corps malade qu'Agnès Buzyn présente son projet de loi en Conseil des ministres. 2 axes majeurs pour réformer. D'abord, la suppression du numéro numerus clausus pour les étudiants en médecine, pour augmenter le nombre de médecins de 20%, et puis la création d'un nouveau statut pour 5 à 600 hôpitaux, Solène Lehen.
Ces hôpitaux de proximité, c'est l'un des outils de ce que le gouvernement appelle la gradation des soins, c'est-à-dire à l'échelon local, dans les petites communes, un hôpital qui permette les soins de base, puis dans les grandes villes, des soins plus spécialisés, avec des plateaux techniques plus élaborés, enfin dans les très grands hôpitaux seraient concentrés les soins hyper spécialisés. L'hôpital de proximité, ce serait donc le premier échelon, avec, je cite le ministère de la Santé, des soins adaptés. Tous proposeraient de la médecine générale, un laboratoire d'analyse médicale, un service de radiologie, de la gériatrie ou encore un EHPAD, et puis des services ponctuels, un ophtalmologiste par exemple aussi, qui pourrait venir une fois par semaine. Pour certains hôpitaux, cela veut donc dire des services en plus et peut-être d'autres aussi en moins. Exemple, un hôpital où il n'y a pas suffisamment d'accouchements aujourd'hui, la maternité serait supprimée. Même chose pour les services de chirurgie. Le ministère de la Santé dit n'avoir pas encore fini d'identifier quels établissements bénéficieront à partir de l'an prochain de ce label d'hôpital de proximité.
Au Venezuela, il y a bien des médecins, mais pas de médicaments pour se soigner. C'est l'une des tragédies de l'ancien pays le plus riche d'Amérique latine. Médicaments et vivres stockés en Colombie, juste de l'autre côté de la frontière. Mais cette aide humanitaire ne passe pas pour l'instant, bloquée par l'armée, fidèle à Nicolas Maduro. Son opposant Juan Guaido a promis hier qu'elle entrerait dans 10 jours. Mais sur place, à la frontière, les militaires ont reçu le soutien des supporters de l'actuel président. Reportage sur place, signé Benjamin Delisle.
Les derniers rayons du soleil éclairent les deux conteneurs et le camion citerne qui bloque le pont de Tienditas. Des dizaines de bus rouges attendent les derniers militants chavistes venus manifester. Willy, 30 ans, assure, charte de l'ONU à l'appui, que seules trois raisons pourraient justifier l'entrée de l'aide stockée de l'autre côté.
Quand il y a une catastrophe naturelle ou environnementale, quand il y a une guerre ou quand il y a une famine dans le pays. Mais aucune de ces situations n'existe au Venezuela.
Plutôt, des centaines d'opposants ont pourtant manifesté dans la ville voisine contre les pénuries de nourriture et de médicaments. Mais ces pénuries s'expliquent avant tout par les sanctions américaines, assure le maire chaviste William Gomez.
Tout simplement parce qu'on ne nous laisse pas acheter ni importer ces produits dans le pays. Il s'agit d'un blocus.
Ici, l'ultimatum de Juan Guaido pour le 23 janvier ne fait peur à personne. Nelly Bertugo est députée du Conseil fédéral de l'État de Táchira.
Il est désespéré parce que les deux plans qu'il avait, maintenir la rue mobilisée et récupérer l'armée, ont lamentablement échoué. L'armée est plus que jamais déterminée à défendre avant tout la patrie de Bolivar et Chavez.
En effet, les militaires sont ici réunis par centaines. En revanche, difficile de parler d'une baisse de mobilisation de l'opposition qui est une nouvelle fois sorti en masse contre Nicolas Maduro. San Antonio de Táchira, Benjamin Delisle, France Inter.
Plus au nord, dans les Caraïbes, situation chaotique en Haïti, succession de manifestations contre le président depuis plusieurs jours. Elles ont fait au moins 6 morts, des affrontements entre policiers et manifestants, une évasion collective hier d'une prison de la côte sud, 78 prisonniers dans la nature. Des milliers d'Haïtiens dénoncent la corruption du pouvoir après un rapport de la Cour des comptes locale. Sa cavale, lui, aura duré moins longtemps que celle de Tony Musulin et il n'a pas eu le temps de planquer son magot, le convoyeur de fonds d'Aubervilliers qui s'est enfui lundi matin avec plus de 3 millions d'euros au volant de son fourgon blindé, a été arrêté hier en fin d'après-midi à Amiens avec une complice. Ils sont tous les deux en garde à vue ce matin au siège de la PJ parisienne.
Il est 8h14, enfin un jour de gloire, Florence, pour le PSG en Ligue des Champions.
Quelle soirée à Manchester, on la disait de tous les dangers. Elle a été de tous les plaisirs pour les Parisiens qui ont dominé la Manu 2-0 en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Sans Neymar ni Cavani, les buts sont signés Kimpembe et Mbappé qui y croient très fort pour le match retour. La qualif est presque dans la poche.
C'est bien, parfait, c'est la qualif, c'est gagné. Je pense que voilà, on est content. On va continuer à bien se préparer parce que je pense que les 20 dernières minutes, on avait un petit creux physique. Et on va se préparer pendant 3 semaines et on va arriver au match retour et être prêt et assurer la qualif. Le foot, ça se joue sur un terrain. Bien sûr, Neymar est ultra important, Cavani est fondamental. Mais voilà, le foot, ça se joue sur un terrain et on l'a montré aujourd'hui. Donc il faut que les gens nous soutiennent. parce que nous on va soutenir Lyon aussi la semaine prochaine. Il faut que le football français aille le plus loin possible en Coupe d'Europe et ça passe par là et il faut arrêter d'avoir peur. On est bon.
Kylian Mbappé qui est bon au micro de Cédric Guillou, sans remontada spectaculaire, ce qui s'est déjà vu au Parc des Princes au match retour, les Parisiens iront en quart de finale, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 3 ans. Enfin voici une histoire absolument passionnante, décryptée par le Musée de l'Homme à Paris. L'histoire des naufragés de Tromelin, un îlot perdu au milieu de l'océan Indien sur lequel un bateau négrier français s'était échoué en 1761. Il repartira en laissant sur place 80 esclaves malgaches que personne ne viendra rechercher malgré les promesses. Que s'est-il passé sur cette île? Comment ces hommes et ces femmes ont-ils survécu? C'est ce que raconte l'exposition Sophie Bécherel au terme de 4 campagnes de fouilles archéologiques.
C'est un confetti dans l'océan Indien. L'île Tromelin fait 1 km², chahutée par les cyclones, couverte de sable et entourée de corail, elle offrait peu de chances aux naufragés pour survivre. Pourtant, certains y sont parvenus et c'est grâce à 4 campagnes de fouilles sous-marines et terrestres qu'il a été possible de reconstituer leur histoire. Selon l'archéologue de l'INRAP Thomas Romont, le sable a recouvert ce qu'il qualifie de petit Pompéi.
Le niveau d'occupation, il contient énormément de cendres et de charbon, ce qui veut dire qu'ils ont eu le feu tout le temps. Évidemment, ils avaient des briquets et surtout ils avaient du bois à disposition, c'est le bois de l'épave.
Pendant 15 ans, ils ont bu de l'eau saumâtre tirée à 5 mètres sous terre. Et de quoi se sont-ils nourris?
Il y a beaucoup d'ossements d'animaux dedans consommés, principalement des oiseaux, la sterne en grande quantité et de la tortue.
Pour s'abriter, les naufragés ont construit des abris en pierre et en corail, bravant par là un interdit. Seuls les morts ont droit à des constructions en dur dans la culture malgache. En tout, 734 objets ont été mis au jour, des ustensiles de fortune fabriqués à partir du métal du navire, mais aussi des bijoux. Max Renoux est co-commissaire de l'exposition.
Moi, ce qui me touche, c'est que ce sont des gens à qui on a dénié toute humanité, qu'on a emmené en esclavage, et qui laissés seuls, créent une petite société et vivent debout.
Après 15 ans d'oubli et 3 tentatives manquées, une corvette accoste enfin. Il ne reste à Tromelin que 7 femmes et un bébé de 8 mois.
Voilà, Tromelin, l'île des esclaves oubliée jusqu'au 3 juin au Musée de l'Homme à Paris.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Il fait froid ce matin, Marie-Pierre.
Et oui, les gelées sont assez fortes, Nicolas, et avec ces conditions anticycloniques, ça donne de la grisaille plaquée au sol et des brouillards givrants, notamment dans le nord-est des Ardennes en descendant vers le Val-de-Saône à la région lyonnaise. Le soleil s'est levé avec moins 5 à Épinal, vers Chaillac dans l'Ingre. Dans le sud-ouest, il fait moins 4 à Bergerac, moins 3 dans les Landes. Pas plus de 1 à Bordeaux comme dans la capitale où ça glisse sur les ponts, hein, ça gèle. Et après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil prendra le relais.
Grande amplitude entre ce matin et cet après-midi.
Et oui, vous aurez 18 degrés d'écart entre, par exemple, Mont-de-Marsan, vous avez moins 3 ce matin et vous aurez 15 cet après-midi. Et après avoir gratté les pare-brises au petit matin, vous pourrez sortir les lunettes de soleil, car et oui, le soleil, enfin, s'imposera sur tout le pays, ou presque. On a encore quelques petits nuages sur les Ardennes et l'Alsace, mais aussi en Méditerranée, autour du golfe du Lion, car le vent marin va se lever. Puis au sud de la Garonne, la douceur va commencer à s'imposer. Et ce n'est que le début. On attend 16 à Bayonne, 14 à Toulouse. Autour de la Méditerranée, comptez 13 à Perpignan, 15 à Toulon et Ajaccio. Et dans le nord-est, l'air plus froid va résister encore un petit peu, même sous le soleil. Pas plus de 8 à Metz, sur le plateau de Langres, 9 à Lille, comptez 10 dans la capitale, mais 12 à Brest et à Nantes.
Merci Marie-Pierre.